You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Fin de non-recevoir de l'Union européenne, alors que les députés des communes britanniques demandent à leur Premier ministre de renégocier une partie de l'accord de sortie sous le nom de Brexit. En Australie, certains États demandent plus d'immigration qualifiée. C'est le cas de l'Australie du Sud, de la Tasmanie, mais également des territoires du Nord. Et en France, on le verra dans ce journal, journée de colère des retraités aujourd'hui. Et on débute donc ce journal avec le Brexit. À Londres, les tractations politiques se poursuivent et à Bruxelles, fin de non-recevoir à la demande britannique de renégociation de la proposition de traité après le vote des communes britanniques. Le point depuis Bruxelles avec Pierre Benazet.
Dans leur grande majorité, les députés européens soutiennent l'idée qu'il n'y a aucune renégociation possible. L'Union européenne n'a pas l'intention d'utiliser le filet de sécurité pour l'Irlande, affirme Michel Barnier. Pas plus que le souscripteur d'une assurance incendie pourrait espérer l'utiliser un jour, mais pour le négociateur en chef, l'UE ne peut envisager l'avenir sans assurance et le filet de sécurité ne sera pas modifié d'un iota. En tout cas, tant qu'une solution alternative crédible n'aura pas été trouvée. Pour rappel, le filet de sécurité pour l'Irlande n'a été inventé que parce qu'aucune alternative n'avait émergé pour garantir le maintien d'une frontière ouverte en Irlande. C'est donc une douche froide pour les espoirs éventuels de Theresa May d'obtenir les concessions demandées par la Chambre des communes, d'autant plus, comme l'ont rappelé les députés européens, qu'elle a fait des demandes similaires à plusieurs reprises déjà, avec toujours un refus identique et unanime. De la même façon, le rejet par la Chambre des communes d'une sortie sans accord s'apparente à un vœu pieux et pour Jean-Claude Juncker, le vote des députés britanniques a accru ce risque d'une absence d'accord.
Et c'était Pierre Benazet à Bruxelles. Politique encore, mais cette fois-ci en Australie. Les Verts qui saluent la décision de l'ancienne députée libérale Julia Banks de se présenter comme candidate indépendante aux prochaines élections générales. Madame Banks a déclaré qu'elle se présenterait contre le ministre de la Santé, Greg Hunt, au siège de Flinders, dans le Victoria. Elle a annoncé qu'elle ferait une campagne énergique, contre le changement climatique et l'égalité des sexes. On écoute la leader vert Richard Di Natale, il a déclaré à Sky News qu'il était heureux de voir plus d'indépendants au Parlement.
We think more independents, more Greens in the Parliament is a good thing, particularly if they're making the focus of their campaign climate change. We welcome the announcement. We think it's a good thing. The Greens, of course, will be contesting those seats as well, and we hope that we see more Liberals lose their seats come the next election.
Donc Richard Di Natale, le leader des Verts. Pendant ce temps, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le ministre de la Santé, donc Greg Hunt, avait fait beaucoup pour les habitants de Flinders. Il ajoute que le ministre donc de la Santé sera récompensé par l'électorat pour son travail sur l'autisme. On écoute Scott Morrison.
Greg Hunt has worked like a Trojan for his community from the day he was elected, and I have no doubt that Greg Hunt will be rewarded by his electorate, will be acknowledged by his electorate for the incredible work that he's done. I mean, one of the things Greg has done in his electorate is he has championed the fight for resources and support of families with autism.
Voilà donc le Premier ministre Scott Morrison. En Australie, toujours, on reparle des banques. Le rapport final de la Commission royale sur le système bancaire sera remis au gouvernement demain, donc vendredi, avant sa publication la semaine prochaine, probablement lundi. Les quatre grandes banques et l'AMP font partie des institutions financières sous le feu des critiques. La directrice générale de l'Association des banques australiennes, Anna Bligh, a déclaré que des erreurs avaient été commises et que les fautifs devront payer. On écoute Anna Bligh.
Well, I think it's been very important for the sector to acknowledge the mistakes, to apologise for those mistakes, but it's going to be equally important to make sure that all of that gets turned into action. I think what Australians want to see is reform in the sector, a banking sector that is one they can once again put their complete confidence in, and that's going to take a lot of effort from banks, a lot of effort from government, and a lot of effort from regulators.
Voilà, donc Anna Bligh. Le premier sud-australien, Stephen Marshall, a envoyé aujourd'hui, donc jeudi, un plan au Premier ministre soulignant le besoin de son État en nombre de migrants qualifiés. Le pitch fait partie d'une proposition avec la Tasmanie et les territoires du Nord visant à augmenter de manière ciblée la population migrante. Le plan vise également à garder des jeunes en Australie et du Sud, tout en augmentant le nombre d'étudiants internationaux. On écoute Stephen Marshall sur Sky News.
In South Australia, we would like to have some targeted increase to our migrant population here in South Australia to deal with some of the skills deficits that we've got in this state. So we're delighted at COAG that the Commonwealth has now agreed that we need to have a more nuanced approach when we're talking about migration, not a cookie cutter approach that just sits sort of static across the entire nation.
13h06, retour sur l'actualité internationale maintenant. En France, journée d'action nationale dans le pays pour sauver le pouvoir d'achat des retraités. 9 organisations ont appelé à la mobilisation. On écoute Olivier Jouchter, le secrétaire adjoint de l'Union des retraités de France à la CGT.
Le gouvernement, pour l'instant, n'a pas cru devoir augmenter les pensions. Vous vous rappelez certainement que 2018 a fait l'objet d'une année blanche. Et pour 2019 et 2020, on nous a annoncé une hausse des pensions de 0,3, quelques euros à peine plus. C'est pas suffisant au regard de l'inflation que l'on observe, de l'évolution des prix sur les carburants, le gaz, les mutuelles et tout un tas d'autres choses. Donc nous demandons, nous, essentiellement deux choses. C'est une revalorisation substantielle des retraites, ça c'est extrêmement important. Il y a un appauvrissement des retraités aujourd'hui dans ce pays-là. Et nous continuons de demander au gouvernement qu'il revienne sur la mesure qu'il avait eue sur la CSG pour redonner soi-disant du pouvoir d'achat aux retraités. Nous considérons que ce n'est pas aux retraités qui eux aussi ont travaillé de payer les augmentations de salaire ou de contribuer au pouvoir d'achat des actifs.
Et c'était Olivier Jouchter de la CGT. Le combat pour la liberté a commencé, c'est ce qu'a tweeté Donald Trump il y a quelques heures, et ce après la manifestation, la grande manifestation organisée par le président autoproclamé au Venezuela, Juan Guaido. Les Vénézuéliens sont donc une nouvelle fois dans la rue pour signifier leur rejet de la politique du président Maduro, ainsi que l'organisation de nouvelles élections, la demande d'organisation de nouvelles élections. On écoute l'un des manifestants, Antonio Maldonado. Pour lui, il faut suivre la ligne dictée par Juan Guaido. On l'écoute.
Aujourd'hui, les Vénézuéliens sont descendus encore une fois dans les rues en réponse à l'appel du président légitime, selon nous, Juan Guaido, et pour continuer de faire entendre nos exigences. La fin de l'usurpation du pouvoir, le retour sur la voie constitutionnelle et la convocation d'élections libres. Et bien entendu, pour exiger nos droits en tant que citoyens vénézuéliens à être libres.
Que pensez-vous des déclarations de Nicolas Maduro qui dit être prêt au dialogue et à organiser des élections législatives et non présidentielles?
Tout ce que convoque M. Nicolas Maduro, que je ne reconnais pas non plus comme président de la République, quel que soit le type de dialogue qu'il souhaite mettre en place, cela signifierait donner plus d'oxygène à ce système tyrannique que l'on subit actuellement.
Voilà, il est 13h09, vous écoutez le journal en français sur Radio SBS. Alors que l'on transpire en Australie, eh bien l'Amérique du Nord a froid, même très froid, des températures ressenties de près de moins 50 degrés et un phénomène inhabituel. Les explications avec Anne Corpet.
Depuis mardi soir, les autorités du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et du Dakota multiplient les appels à la prudence. Toute la région des Grands Lacs est paralysée. Écoles et commerces fermés, avions cloués au sol. Les services postaux ont décidé de ne pas délivrer de courrier aujourd'hui dans une dizaine d'États pour éviter d'exposer leurs agents à la morsure du froid. C'est une mesure extrêmement rare. Dans un slogan publicitaire, la Poste américaine se targue de servir la population quel que soit le climat. Des abris supplémentaires ont bien sûr été ouverts dans de nombreuses localités pour accueillir les sans-domicile fixe particulièrement exposés. Des millions de personnes sont confinées chez elles. À Chicago, on fait du feu sur les rails pour permettre aux trains de circuler. Dans cette ville très exposée au vent, il fait ce mercredi plus froid qu'au pôle Nord et la police locale annonce qu'un nouveau type d'attaque à main armée a lieu depuis quelques jours, le braquage de doudounes et d'anoraks de marque en pleine rue.
Et c'était Anne Corpet, donc, pour RFI. On reste aux États-Unis, mais du côté économique, l'avionneur Boeing prévient, 2019 devrait être une année exceptionnelle pour eux. En 2018, l'Américain avait tout juste devancé Airbus, le constructeur européen. 806 contre 800 avions livrés. Eh bien, 2019 semble sourire déjà à Boeing, Olivier Four.
Cette année, le constructeur de Chicago table sur 895 à 905 avions à livrer. Boeing, constructeur planétaire, précise que le groupe a su surmonter les retards de ses fournisseurs dans le domaine des fuselages et des réacteurs, retards qui avaient ralenti l'activité du géant américain l'an passé. Boeing qui commence bien l'année en enregistrant une commande de 19 P-8 Poséidon pour le compte de l'US Navy, la marine américaine, des avions militaires dérivé de l'avion civil Boeing 737. Mais ces commandes gouvernementales ne sauraient cacher l'immense succès des Boeing auprès des compagnies aériennes du monde entier, à commencer par l'avion de ligne Boeing 737 MAX, ultime évolution du moyen courrier né en 1967. L'an dernier, près de 600 de ces avions ont été construits et la cadence portée à 52 machines par mois. Dans le haut de gamme, la rentabilité du Boeing 787 Dreamliner s'améliore. Résultat, pour la première fois de son histoire, Boeing a vu l'an dernier son chiffre d'affaires annuel dépasser les 100 milliards de dollars pour un bénéfice net annuel de l'ordre de 10 milliards en hausse de 24%.
Voilà, donc Olivier Four, les autorités britanniques ont annoncé la reprise des recherches pour retrouver l'épave de l'avion dans lequel était le joueur de football Emiliano Sala, l'avion serait crashé quelque part dans la Manche. Des débris ont été retrouvés, notamment deux sièges qui appartiennent donc à l'avion. À Nantes, le club dont est originaire Sala, l'émotion est toujours grande. On écoute Maxime Jaglin.
Son nom est scandé en boucle ce mercredi soir à la Beaujoire. Alors au moment où le visage d'Emiliano Sala apparaît sur les écrans géants, dans les tribunes nantaises, on a bien du mal à cacher son émotion.
Être là ce soir, c'est viscéral.
Michael, supporter de toujours, s'accroche à son drapeau argentin.
Sala, para siempre, à toujours. Quoi. Il doit avoir une statue comme Thierry Henry à Arsenal. Quoi. C'est un enfant du FC Nantes, quoi. Il fait partie de la famille. Non.
Le stade s'habille de jaune et de vert, bien sûr, mais aussi d'une banderole bleue et blanche, les couleurs qu'aurait dû porter Emiliano Sala, celle de Cardiff. Mike a fait le déplacement au nom des supporters gallois.
C'est moi qui ai fait cette banderole. Les mots sont venus naturellement. Elle dit, on ne l'a pas vu jouer, pas vu marquer, mais il avait signé pour Cardiff City, donc il était un oiseau bleu.
Sur le terrain, les joueurs nantais arborent un maillot floqué. Sala, pas de minute de silence toutefois pour garder espoir, comme Sylvaine, écharpe autour du cou.
Juste la sobriété, juste des sons, de la pensée pour lui, des prières, c'est ce qui compte. Ouais. Pas de feu d'artifice, la simplicité comme il était lui.
Simplicité et ferveur à la 9e minute de jeu, quand tout le stade se lève, une dernière fois pour son ancien numéro 9.
Voilà, donc c'était Maxime Jaglin sur cette triste histoire. Le sport, on y revient dans quelques instants avec Jean-Noël Ducasse, tout de suite après ce journal. 13h et presque 14 minutes, on va faire un tour d'horizon du côté de la météo à travers le pays. À Perth, il fera 37 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 21, Hobart 18, Canberra 35, Sydney 38 degrés, Newcastle 39 degrés, Brisbane 32, Cairns 30 et Darwin 31 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Fin de non-recevoir de l'Union européenne, alors que les députés des communes britanniques demandent à leur Premier ministre de renégocier une partie de l'accord de sortie du Brexit. En Australie, certains États demandent plus d'immigration qualifiée. C'est le cas de l'Australie du Sud, de la Tasmanie, mais également des territoires du Nord. Et en France, on l'a vu, journée de colère des retraités aujourd'hui.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.